Dans les années précédentes, ici, nous disposions de 4 mois. Et c'était des vacances continues. Nous n'avons pas pu maintenir ce régime qui est lourd, vous le pensez, pour tous ceux qui s'occupent de cette heure, notamment ceux qui ont la charge matérielle du séjour ici. C'est beaucoup trop lourd et puis les années se sont accumulées sur des épaules qui déjà en supportaient pas mal, n'est-ce pas? Et puis même ceux qui ont la charge spirituelle, moi par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, c'était évidemment, je ne faisais que 3 mois, 3 des 4 mois, mais malgré tout, c'était une charge lourde. Cependant, nous avons pu, à ce moment-là, prendre des livres bibliques. Vous savez que la Bible contient 66 livres au total. Nous avons pu prendre des livres et les étudier d'un bout à l'autre, verset par verset. Et cette étude, qui a été évidemment entrecoupée par l'étude de certains sujets spéciaux, il faut bien aussi quelquefois faire cela, comme par exemple la guérison, n'est-ce pas, étude qui nécessite d'aller puiser dans toutes les parties de la Bible. Mais l'étude des livres de la Bible, par une lecture et une méditation continue, verset par verset, est nécessaire. Et il faut que dans les églises, on le fasse. C'est indispensable. L'enseignement doit utiliser cette voie-là. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce que cette étude est la véritable étude que Dieu nous propose. Il faut lire l'Écriture, n'est-ce pas, du commencement à la fin, et particulièrement quand on prend un livre, du commencement de ce livre à la fin de ce livre. Et ainsi, on évite de faire ce qui s'appelle de la dogmatique, c'est-à-dire de faire des dogmes qu'on appuie sur toutes sortes de déclarations de l'Écriture, certes, hein, mais ces dogmes ont toujours quelque chose d'inexact. On ne peut pas formuler, c'est très difficile en tout cas, de formuler la volonté de Dieu par le moyen de dogmes. Nous y introduisons toujours de l'humain. Et je connais des professeurs de dogmatique, des grands professeurs de dogmatique qui eux-mêmes, n'est-ce pas, reconnaissent ce défaut de cette branche de la théologie. Alors, faire des dogmes, nécessairement, on va susciter dans le peuple de Dieu des contradictions, des contestations, et c'est ainsi, n'est-ce pas, que sont nées les différentes doctrines qui s'opposent les unes aux autres et qui même arrivent à se combattre. Tandis que lorsque l'on s'instruit verset par verset, on évite ce danger-là. Il est possible que quelquefois l'interprétation que l'on peut donner de telle ou telle assertion d'un apôtre ou enfin d'un écrivain sacré, il se peut que cette interprétation ne soit pas toujours excellente, mais d'une manière générale, on ne risque pas l'erreur. Tous ceux qui ont construit des sectes ont fait en somme des doctrines, de la dogmatique, ils ont fait leur propre dogmatique, et par conséquent, en faisant l'étude verset par verset, nous évitons ce grave écueil et nous restons dans la vérité, nous prenons acte, prenons connaissance de la vérité, de la pensée du Seigneur, et c'est bien ce qui nous est nécessaire. Toutefois, maintenant, avec notre système nouveau de session d'une 15aine de jours, nous ne pourrons pas, bien sûr, étudier des livres entiers. Mais nous ferons quand même encore de l'étude verset par verset, en prenant certaines parties alors des livres étudiés. Nous sommes au devant donc de cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens. La première épître fut rédigée, la première épître aux Corinthiens fut rédigée à Éphèse, au printemps de l'année 57. Tout cela est peut-être un peu approximatif, ça n'a pas toujours été vu de la même manière, des gens qui ont l'ont placé la première épître en l'an 56, mais toute chose bien considérée, c'est au printemps 57 que l'on peut valablement situer la première épître, et elle était écrite d'Éphèse. Paul était à Éphèse à ce moment-là. Et la seconde épître le fut à l'automne de l'année suivante, à l'automne 58, soit un an ou un peu plus, un an et demi, entre un an et demi après la première épître. Entre ces deux épîtres adressées à la même église de Corinthe, l'apôtre avait voyagé et il se trouvait là en Macédoine, où il affermissait les jeunes églises. Nous étions en l'an 58, c'est-à-dire environ à 29 ans de la naissance de l'église, c'est-à-dire de la Pentecôte. Puisque la crucifixion du Seigneur Jésus, sa résurrection et la Pentecôte 50 jours après, se situent en l'année 29. Non pas en l'année 33, parce que le Seigneur n'est pas né au début de notre ère. Notre ère, en somme, a commencé, on pense, 4 années, alors que Jésus avait déjà 4 ans. Et 29, ça fait 58, nous sommes donc à 29 ans du début de l'Église, mais pas loin par conséquent du commencement de l'Église. Paul envoya cette seconde lettre par son fidèle disciple Tite et par deux frères qui ne sont pas nommés. Regardons dans notre épître le chapitre 8 et le verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. C'est donc Tite qui va aller porter la lettre. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Ce frère-là n'est pas nommé. Voyez, il n'est pas toujours nécessaire de nommer les personnes. Il y a des personnes qui aiment servir le Seigneur dans l'effacement. Et ce n'est pas le moins bon service, au contraire. L'effacement. Nous devrions toujours, d'ailleurs, être portés à désirer un effacement, comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse, lui, qu'il grandisse, et que moi, je diminue. Et puis, nous avons cet exemple aussi de Lévi. Lévi qui est Matthieu, l'auteur du premier évangile. Lévi a eu l'occasion, au début du ministère du Seigneur, de le recevoir dans sa maison et dans son évangile. Il en fait bien mention, mais il dit que Jésus fut invité. Fut invité dans une maison. Il ne dit pas que c'est la sienne. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il se met à l'écart, il se met dans l'ombre. Ça n'importe pas. Ça gênerait même peut-être. Ça gênerait. L'homme gêne toujours, chers amis, quand il se met en avant. L'homme gêne. Il amène sa chair. La chair fait un écran à l'esprit. Il est quelquefois bon. Aujourd'hui, on ne sait plus ces choses. Il faut les réapprendre. Savoir. Se mettre à l'écart. On sert le Seigneur. On le sert même très bien. On peut accomplir des œuvres même grandes, magnifiques, dans l'effacement où l'on se tient. Une grande partie de l'Église avait été humiliée par la première lettre aux Corinthiens, première lettre, elle avait été humiliée parce que Paul lui avait adressé par cette lettre de graves reproches. Et notamment, nous pouvons nous y reporter, 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 1, un fait scandaleux, absolument scandaleux, il y avait un homme qui vivait avec la femme de son père. C'était une situation incestueuse. 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voyez quelle fermeté, n'est-ce pas, devant un scandale de cet ordre. Disons que dans les épîtres, donc l'Église a à peine 30 ans encore d'existence, mais dans ces épîtres, et particulièrement celle-ci, n'est-ce pas, nous voyons apparaître des choses qui sont véritablement mauvaises, n'est-ce pas, des situations alarmantes même. Hein. Eh bien, cependant, Paul va dénoncer ces choses, d'une part, bien sûr, mais Paul ne va pas pour autant abandonner ces églises, ou tout au moins s'abstenir de leur apporter aussi, d'autre part, de puissants encouragements. Alors, cet homme, donc, avait été l'objet de cette apostrophe de l'apôtre adressée aux membres de l'Église qui en avaient été humiliés, et puis cet homme avait été exclu à la suite de la première lettre, et il avait été amené à la repentance, livré à Satan pour la destruction de la chair, n'est-ce pas ? Ah, tu veux faire le mal, eh bien va avec celui qui est l'auteur du mal, va avec lui, on te livre à lui, on te chasse de l'Église. Tu n'as plus ta place, ôtez le méchant du milieu de vous, tu n'as plus ta place dans l'Église. Voici ton maître, voici ton père maintenant, puisque tu agis ainsi, ton père c'est le diable, livré au diable. Mais cet homme avait souffert, s'était repenti. Et dans la deuxième épître, nous voyons que l'apôtre Paul demande sa réintégration. Au chapitre 2, verset 5, chapitre 2, verset 5, « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous étiez obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ainsi donc, cet homme, l'apôtre Paul demandait qu'il soit réintégré. Mais tout n'était pas quand même réglé dans cette assemblée de Corinthe. Une assemblée qui avait évidemment contre elle d'être l'assemblée locale de cette ville épouvantable de Corinthe, et qui était à cette époque comme un avant-goût, un échantillon de notre société moderne. Et à Corinthe, outre tous les dérèglements de la chair qui s'y donnaient libre carrière, il y avait beaucoup de phraseurs, de philosophes, de gens qui construisaient des doctrines et qui aimaient se faire entendre. Ils parlaient dans la rue, ils parlaient sur n'importe quelle estrade. Et dans l'église même, des hommes s'étaient introduits qui n'étaient autres que de faux docteurs. Il y avait des faux docteurs. Et c'est pas toujours facile à dénoncer cela. Ce n'est pas toujours facile d'exclure, de chasser avec motif à l'appui des faux docteurs, n'est-ce pas, parce que leur action est subtile, elle se fait insinuante et on n'a pas toujours des faits patents à reprocher, à mettre en avant. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas, d'exercer la discipline au sein de l'Église. Il y avait donc des faux docteurs qui se faisaient les adversaires de Paul. Et de quoi accusait-il l'apôtre? Il l'accusait particulièrement de quatre choses graves. De quatre choses graves. Il se faisait les accusateurs de Paul. Il l'accusait d'abord de versatilité dans ses résolutions et de contradiction avec lui-même. Voyons au chapitre 1, les versets 17 et 19. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Voyez, la versatilité dont on l'accusait. Y aurait eu en lui le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. On l'accusait donc de versatilité et de contradiction avec lui-même. On l'accusait secondement de hardiesse en ses lettres. Dans ses lettres, on y trouvait de la hardiesse. Une autorité qui n'avait pas peur de se montrer. Puis, lorsque l'apôtre était présent à Corinthe, on voyait en lui de la faiblesse. Alors, d'un côté, de loin, il savait par la plume manifester de l'autorité et de la hardiesse. Puis quand il était là, ses détracteurs l'accusaient d'être faible, d'être infiniment faible. Ceci, voyons-le dans le chapitre 10 et verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Voilà le grief, le second grief qu'on lui faisait. Quand il est là en personne, sa parole est faible et méprisable. Elle n'a aucune force, aucune valeur. Le troisième reproche qu'on lui faisait était de ne point toujours exprimer la vérité. Ça, c'est grave. C'est très grave. De ne pas toujours exprimer la vérité. Et ce grief, chers amis, Satan, Saint génie a toujours trouvé au milieu des églises quelqu'un qui va pouvoir le formuler et surtout le reprocher à celui qui a la charge d'un ministère, la charge d'édifier, d'enseigner, celui qui est le conducteur de l'église. Il va toujours s'efforcer de trouver quelqu'un et lui dire « Tu ne dis pas la vérité ». Voyons au chapitre 4, verset 1, 1 à 3. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est la réponse à ce grief. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est à l'adresse de ses adversaires, n'est-ce pas? eh bien, ce sont des gens qui ne voient pas la vérité, qui prétendent que c'est l'erreur. Pourquoi? Parce que l'Évangile est voilé pour eux. Leur cœur est voilé et ne peut pas recevoir la vérité. Mais enfin, c'était un grief adressé à l'apôtre. Et le quatrième grief était celui de paraître plus désintéressé. L'apôtre était accusé de paraître beaucoup plus désintéressé qu'il ne l'était réellement. Dans le fond de sa pensée et dans le fond de ses aspirations, il y aurait eu l'intérêt, je parle de cet intérêt sordide, intérêt pour de l'argent, pour des biens matériels. Il y aurait eu donc caché dans le cœur de l'apôtre cet intérêt-là, alors qu'il aurait affiché un parfait désintéressement. Cela au chapitre 12 de notre épître, versets 14 à 18. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Voilà la réplique de l'apôtre. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Voyez, voilà ce qu'on lui reprochait. Un homme astucieux, et finit tout de même par mettre la main un peu sur vos biens, hein, tout en me montrant désintéressé. Voyez-vous, le grief, s'il était terrible, ce grief. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Eh bien, chers amis, vous savez, être l'apôtre d'une assemblée de laquelle partent de tels griefs, de telles calomnies, c'est pas une petite charge. Je dis ça à mes amis pasteurs, n'est-ce pas, qui quelquefois se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent dans leurs églises. Eh bien, Paul en a rencontré de plus sévères, n'est-ce pas, et de plus cruelles même que celles que l'on peut rencontrer généralement, bien que il arrive bien sûr aussi que des choses vraiment dramatiques se produisent. Mais enfin là, n'est-ce pas, il y avait vraiment un comble. Quel ensemble de calomnies n'avait-on pas dressé contre l'apôtre? Et pourquoi cette calomnie? Elle était le fait de quelques membres de l'Église qui, bien entendu, se donnaient pour spirituels, et en général, qui se manifestaient comme les plus spirituels. Cela arrive, hélas, au milieu du peuple de Dieu. J'ai déjà expliqué le pourquoi de ces choses, je ne peux pas y revenir maintenant. Ce serait une digression trop lourde dans notre étude actuelle. Mais tout de même, n'est-ce pas, sachons ceci, c'est qu'il y a des gens qui sont portés à se montrer comme très exigeants sur le plan, par exemple, de la sainteté. Elles se manifestent comme des super spirituels. Et c'est de ces gens-là, en général, que partent toutes les médisances, les calomnies, les mauvais propos qui font du mal à l'Église, au peuple de Dieu, et qui même, n'est-ce pas, fouettent souvent ses serviteurs. Et ces gens-là étaient surtout, à l'époque des Corinthiens, des judaïsants. Et ces judaïsants, en réalité, n'acceptaient pas franchement la doctrine enseignée par Paul. Ils n'acceptaient pas franchement, en somme, l'évangile de la grâce. Paul se voit donc obligé de se défendre et de défendre son ministère. Il faut bien qu'il le fasse devant cette Église, parce que tout de même, il y a une majorité de membres là qui attendent précisément les explications de leur apôtre et qui attendent d'être rassurés par lui. Alors, il va se défendre son ministère et il va réaffirmer son autorité apostolique. Il a une autorité apostolique. Chers amis, c'est très difficile de défendre son autorité dans l'exercice d'un ministère. C'est très difficile parce qu'il ne faut pas donner, évidemment, oh là là, la complaisance à l'égard de l'homme lui-même. C'est le ministère qu'il faut défendre. C'est l'autorité prêtée par le Seigneur qu'il faut défendre. Et c'est très délicat de le faire. Et l'apôtre Paul y parvient d'une manière évidemment excellente. Il y avait donc des faux docteurs à Corinthe, et en un langage net et tranchant, Paul parlera même de sa disposition à punir toute désobéissance. Là, il emploie même un peu la menace, chapitre 10 et verset 6, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Paul exprimera d'autre part sa joie de ce que, dans la grande majorité, l'Église a fort bien reçu. Tite, son envoyé, son fidèle disciple, et qu'elle lui reste attachée, comme elle reste attachée à lui-même, l'apôtre, et à son enseignement. La majorité de l'Église était attachée à l'enseignement de l'apôtre Paul. Enfin, Paul parlera de la grande collecte qu'il a organisée en faveur des membres de l'Église de Jérusalem. Telle est dans l'ensemble la substance de cette deuxième lettre aux Corinthiens. Et alors, réfléchissons bien, méditons nous-mêmes, nous sommes là pour méditer sur toutes ces choses, voyez-vous. C'est avec cet ensemble de préoccupations que le Saint-Esprit a inspiré Paul en tant qu'écrivain sacré, parce qu'il a sa place parmi les écrivains, les rédacteurs de la Bible. Eh bien, c'est dans cet ensemble de préoccupations que le Saint-Esprit a inspiré à Paul cette seconde épître aux Corinthiens, dans laquelle la révélation de Dieu va se poursuivre. Il va s'agir, n'est-ce pas, de répondre à des calomnies, il va s'agir de consoler, il va s'agir de parler de collecte pour en faveur des chrétiens de Jérusalem, il va s'agir en somme de choses, disons, contingentes, c'est-à-dire de choses qui sont en rapport avec l'actualité que vit cette église de Corinthe, n'est-ce pas? Il y a des événements, des faits actuels. Et l'apôtre Paul va présenter ses réponses face à ces situations. Eh bien, c'est dans cet ensemble-là que l'esprit qui inspire l'auteur de la lettre va poursuivre la révélation de Dieu, nous apporter à travers de tout cela la révélation de Dieu. Chers amis, c'est que ça le mécanisme de l'inspiration, c'est ça, n'est-ce pas, que Dieu fait. Il prend des situations actuelles, il ne les change pas, il faut que l'apôtre prenne position devant ces situations, il le fait. Toutes les lettres, toutes les épîtres sont d'ailleurs, n'est-ce pas, écrites face à des situations particulières dans les églises qui sont les premières destinatrices de ces lettres, et c'est dans ce cadre-là que le Saint-Esprit lui apporte la révélation. Alors, il ne s'agit pas seulement, n'est-ce pas, de faire, ou il ne s'agit même pas du tout, de faire là une étude purement historique, ce que font beaucoup de théologiens à longueur de pages et de livres et d'ouvrages. Ça ne sert à rien. Ça n'aboutit à rien. Quand on a vu un peu le cadre historique, bon, eh bien, arrêtons-nous. Mais il s'agit de trouver là, et c'est ce que nous ferons, hein, ce que l'Esprit dit aux églises, à UX, aux églises de tous les temps par cela. Et tout cela, ces lettres de Paul, ces réponses de Paul, ces prises de position de Paul à l'égard de cette situation à Corinthe, tout cela devient parole de Dieu. Parce qu'il y a eu l'inspiration du Saint-Esprit. Et dans la parole de Dieu, il y a toujours le message. Le message, la révélation de Dieu. C'est magnifique, il faut savoir ces choses, n'est-ce pas? Alors, prenons garde, n'est-ce pas, d'une petite étude, en somme, excusez l'expression, mais qui serait un peu bébête, et qui consisterait, n'est-ce pas, à ne voir que les situations du moment, n'est-ce pas, à faire un petit peu d'études historiques, n'est-ce pas? Non, il faut rechercher là, vraiment, l'apport du Saint-Esprit en tant que révélation de Dieu. Il y a donc un cadre historique, il y a des faits, il y a des situations qui obligent l'apôtre Paul à écrire cette seconde lettre, et en écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, il intervient comme écrivain sacré et il exprime le langage de Dieu et de Christ. Donc la révélation, n'est-ce pas, se sert toujours d'un cadre historique. D'ailleurs, l'action du Seigneur Jésus se place dans un cadre historique, puis elle sort de ce cadre. Mais elle est venue s'insinuer dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la terre. Elle est venue dans le cadre historique, dans un cadre historique. N'est-ce pas ? Mais là, elle sort de ce cadre, elle devient parole de Dieu, n'est-ce pas ? Et elle fait jaillir de là les vérités éternelles. Nous allons prendre maintenant, au chapitre 1er, les versets 3 à 11, que nous allons lire maintenant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, pour nous par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Dans ce passage, nous trouvons une accumulation des termes. Il y a, par exemple, 9 fois le verbe consoler ou le substantif consolation, et en regard de ce terme, il y a ceux que voici, affliction, souffrance, tribulation, mort. Nous retrouvons le verbe consoler et le substantif consolation dans les chapitres 7 et 13 de cette même épître, cinq fois encore en dehors du passage que nous avons lu, si bien que nous pouvons dire que ce terme et cette idée de consolation apporte une des notes dominantes, une des deux ou trois grandes, une des notes dominantes de cette épître. Consolation. Qu'est-ce que cela signifie dans la Bible? Il faut, chers amis, bien savoir que les mots, bien sûr, sont à examiner. Il faut savoir ce que signifient les mots que nous découvrons dans l'Écriture. Ce sont souvent des mots du langage courant, mais ils prennent un sens, souvent particulier. Ils entrent dans ce que Paul appelle un langage spirituel, pour parler de choses spirituelles. Par conséquent, on peut toujours consulter un dictionnaire, savoir ce qu'un mot signifie, n'est-ce pas? C'est bon quelquefois de le faire. Mais il faut aussi voir son emploi dans les Écritures et voir vraiment le sens qu'il revêt et que l'inspiration lui donne. Voir aussi le service que ce mot va nous rendre dans l'expression, pour l'expression de la vérité, de la révélation de Dieu. Eh bien, entre les hommes, la consolation, c'est ce qui se propose d'adoucir l'affliction et de l'apaiser, de soulager la peine de quelqu'un autant qu'on le puisse. Cela par de bonnes paroles ou par une certaine commisération, c'est-à-dire en essayant d'entrer dans le chagrin, la peine, l'affliction de celui qu'on veut consoler, n'est-ce pas? C'est en somme la sympathie que nous manifesterons à quelqu'un dans son chagrin. Mais la consolation biblique a une autre couleur. La consolation biblique, le mot consolation est là, n'est-ce pas? Parce que, comme on nous l'a dit l'autre jour, n'est-ce pas? La révélation de Dieu est descendue, n'est-ce pas? Dans les termes, les moyens du langage humain, du langage courant. Il a fallu, n'est-ce pas, que Dieu fasse cela à travers les écrivains sacrés qu'il a inspirés. On s'est donc servi, bien sûr, de mots qui sont connus des lecteurs, mais la consolation biblique, celle de Dieu, n'est pas au même niveau que celle des hommes, bien sûr. Elle est à un autre niveau, un niveau bien supérieur. Elle n'est pas faite de bons mots, seulement invitant surtout l'homme qui souffre à la patience, à la résignation. D'ailleurs, l'idée de résignation n'est pas dans la Bible. N'est pas dans la Bible. C'est dans la tradition, une fausse tradition, une tradition déjà déviée du christianisme que l'on voit apparaître l'idée de résignation. Il dit, il n'y a pas de résignation, Dieu ne nous demande pas de résignation, il nous demande de la patience. Pas la même chose. Pas du tout la même chose, la patience, que la résignation. Se résigner, n'est-ce pas, c'est en somme s'abandonner à la puissance du malheur, du mal agissant sur nous, en quelque sorte même presque à une fatalité, n'est-ce pas? Et pas du tout, c'est pas du tout ce que Dieu veut de nous. Il nous veut au contraire en attente de sa grâce, en réaction par la foi, n'est-ce pas? Voyez que c'est tout à fait différent. La consolation biblique, elle est positive et elle est active. Elle est due à une intervention de la bonté divine. Mais quand Dieu intervient, vous savez, ce n'est pas pour mettre un petit peu de baume, n'importe quel baume, sur la plaie, n'est-ce pas? C'est tout dans un tout autre esprit. Dieu est puissant, son amour est lui-même puissant, et il intervient selon sa bonté pour consoler, mais d'une manière positive. Cette consolation sera donc un réconfort, un réel réconfort que Dieu peut donner. Lui, Dieu peut réconforter intérieurement. Il sait de quoi l'homme est fait, et lui qui l'a créé. Il sait de quoi nous sommes faits. Il le lit, il sonde nos cœurs et nos reins. Il peut apporter ce réconfort, et il l'apportera si il voit que la foi, précisément, se tend vers ce réconfort. La foi, n'est-ce pas, c'est son rôle de tendre, de tendre comme les mains, n'est-ce pas, pour prendre, pour saisir. Et Dieu veut cela. Dieu n'aime pas, en somme, les dilettantes, c'est-à-dire des gens qui veulent bien de quelque chose si on leur tente. Il aime les violents, comme a dit le Seigneur. Il aime les gens hardis, les gens décidés par la foi. Et ceux qui sont décidés, n'est-ce pas, eh bien, notamment, peuvent venir lui prendre, chercher auprès de lui cette consolation, ce réconfort et qu'il est tout prêt à leur donner. Un réconfort intérieur et une communication d'une force spirituelle qui va relever celui qui souffre. Il va le relever, celui qui souffre. Alors, chers amis, ayons un peu maintenant une pensée pratique. Eh bien, dans le peuple chrétien, parmi vous, n'est-ce pas, membres d'assemblées évangéliques et même d'assemblées, disons, de plein évangile, de Pentecôte, il y a actuellement beaucoup de gens qui, pour une cause ou l'autre, beaucoup de causes d'ailleurs, souffrent, hein, sont affligés, souffrent par exemple dans leur corps, souffrent à cause de leurs enfants, de leur famille, de leurs conjoints, souffrent d'une façon morale, d'une façon physique. Enfin, les afflictions sont grandes. Nous en parlerons un peu d'ailleurs ce matin, des afflictions. Eh bien, ceux qui sont dans une telle affliction doivent savoir qu'il leur convient d'aller chercher auprès de Dieu un réconfort qui est là disponible. Aller chercher un réconfort par la foi, pas en hésitant, pas avec en manifestant ce que Jacques appelle de l'inconstance. L'homme inconstant n'obtient jamais rien. Inconstant. Hein. Mais au contraire, avec une foi ferme, connaissant la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu, n'est-ce pas, voulant s'exercer toujours pour nous relever, non pas pour nous laisser aller n'importe où au fil de pensées qui germeraient encore dans le cœur humain, dans la chair, hein, mais au contraire pour nous lever et nous remettre en marche vers le royaume de Dieu, vers le salut. Et Dieu console, c'est-à-dire qu'il relève, il réconforte, parce que véritablement, lui, il compatit. Il compatit à la souffrance. Il compatit, Dieu compatit. Ne perdons pas de vue cela. Pensons au Seigneur Jésus, se trouvant au milieu de ses foules, dans la Galilée, il était ému de compassion. Ému de compassion devant ces foules qui étaient comme des brebis sans berger. Il était ému de compassion. Et cette émotion n'était pas celle qui pouvait gagner son âme par le moyen de la chair, si vous voulez, c'est-à-dire de la vue seulement, n'est-ce pas, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, sans direction, sans parole de vie. Mais c'était une émotion qui venait de l'esprit, bien sûr, de pure source d'esprit en la personne parfaite de Jésus, de pure source d'esprit, et qui venait dans son âme. Mais son âme, n'est-ce pas, étant, bien sûr, ainsi alimentée par l'esprit. Alors, cette compassion qu'avait Jésus, cette émotion qu'avait Jésus en voyant ces foules dans leur terrible besoin spirituel, eh bien, alors, ça, c'était la compassion de Dieu. Et nous voyons que l'apôtre Paul nous parle ici, dans son verset 3, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nomme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. Par ailleurs, dans les Saintes Écritures, Dieu est encore appelé Dieu de patience. Je ne prends que les désignations qui s'apparentent à celles-ci. Dieu de patience, Dieu de paix ou de persévérance, patience ou persévérance, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu d'espérance aussi, dans l'Épître aux Romains, Dieu d'espérance, ce qui signifie quelque chose. Et pas simplement, n'est-ce pas, pour faire de la littérature. Cela signifie quelque chose. Et cela signifie que Dieu est la source de toutes ces grâces, de toutes les grâces qui correspondent à ces notions, la notion de patience, de paix, d'amour, d'espérance, de miséricorde, de consolation. Eh bien, il y a des grâces dans tous ces secteurs, des grâces pour la consolation, des grâces pour la patience, pour la paix, pour l'amour, pour l'espérance. Et Dieu est la source de toutes ces grâces. Et ces grâces elles-mêmes correspondent aux perfections divines, aux perfections de Dieu. Chers amis, les grâces que Dieu veut répandre, et elles nous sont signalées par ces mentions, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de patience, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance, eh bien ces grâces, Dieu veut nous les destiner, parce que elles correspondent à ses propres et magnifiques perfections. Soyez saints car je suis saint. Dieu est saint, c'est la raison impérative pour laquelle il faut que nous soyons saints. Dieu est juste, il faut qu'il trouve en nous, lui qui nous a justifiés en Jésus-Christ, des justes. Et si Dieu possède ces trésors de l'amour, de la patience, de l'espérance, car Dieu a foi en son œuvre, Dieu est tout à fait confiant en son œuvre, eh bien, alors il nous les destine sous forme de grâce. Voilà ce qu'il faut bien comprendre, chers amis. Ces grâces correspondent donc à sa nature même. Et Dieu est cela pour nous parce qu'il est un tendre Père réconcilié. C'est dans la réconciliation que nous pouvons trouver ses grâces. Quelqu'un qui s'est tenu hors de la réconciliation, hein, alors celui-là ne peut pas toujours compter sur ses grâces. Bien sûr, quelquefois, le Seigneur les donnera dans le sens d'un appel pour attirer à lui, pour attirer à son fils. Mais sachons que dans la vie chrétienne, si nous sommes, nous, vraiment ses disciples, les disciples de Jésus-Christ qui savent qu'ils sont réconciliés avec le Père, alors ses grâces sont là à leur disposition. Le verset 3 commence par une action de grâce qui est rendue à Dieu, « Béni soit Dieu », ce qui signifie ceci, n'est-ce pas, nous, en principe, nous ne pouvons pas nous bénir Dieu, c'est Dieu qui peut nous bénir. L'Écriture nous dit elle-même, n'est-ce pas, que c'est le supérieur qui peut bénir l'inférieur, et nous ne pouvons pas, nous, inférieurs, bénir, n'est-ce pas, le grand Dieu des cieux, dans un certain sens. Mais ici, lorsque nous parlons de bénir Dieu, et que nous faisons ce vœu, cette prière, que béni soit Dieu, cela veut dire que Dieu soit célébré ou loué, que Dieu soit célébré. C'est une forme, si vous voulez, déjà, de reconnaissance et d'adoration à l'adresse de Dieu. Et cette action de grâce est destinée à Dieu lui-même, qui est la source première du salut. Et ensuite, nous trouvons cette mention « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et cette mention indique autant l'intimité de Dieu et de son Fils que l'entière dépendance du Fils par rapport à Dieu. Hein? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, intimité de Dieu et de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui accomplit le dessein souverain du Père. Jésus est, lui, dans l'accomplissement. Le Saint-Esprit, lui, est dans la communication. Il nous met en communication de ce qui a été accompli par le Christ. Vous voyez, n'est-ce pas, comment les trois personnes de la Trinité, puisqu'on l'appelle ainsi, peu importe ce terme, n'est-ce pas, les trois personnes collaborent, si je puis dire. Dieu souverain, Dieu a décidé dès avant la fondation du monde ce qu'il ferait. Il a eu un dessein qu'il allait accomplir, exécuté par Jésus-Christ. Il l'a exécuté par Jésus-Christ qui a dit « Tout est accompli » et maintenant le Saint-Esprit communique. Mais là, l'apôtre, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une forme de style, rappelle que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin toujours, n'est-ce pas, de revenir à ce lien du Fils et du Père. Oh, je voudrais vous en parler d'une façon plus étendue et plus profonde encore, une autre fois, de ce lien du Père et du Fils. Parce que il revêt une importance énorme. Et ce lien du Père et du Fils détermine le lien de l'Église, c'est-à-dire le lien de nous-mêmes avec Jésus-Christ. Le lien du Père et du Fils s'est traduit par un autre lien, bien sûr, qui lui est correspondant, qui est d'ailleurs la continuation, le lien entre le Fils, le Christ et son Église. Paul partage avec les Corinthiens la consolation venue de Dieu. Dieu communique à l'apôtre une paix intérieure, une tranquillité de l'esprit et de l'âme, au milieu de beaucoup de souffrances. Et c'est là une expérience qu'a faite l'apôtre Paul et dont il veut reporter le bénéfice sur les chrétiens de Corinthe auxquels il s'adresse. Et bien sûr, les Corinthiens étaient les premiers destinataires, nous sommes d'autres destinataires, nous sommes aussi les destinataires de cela. La consolation divine dont Paul donc a fait l'expérience doit se reporter sur l'Église. D'ailleurs, tout est pour l'Église. Dans le ministère de Paul, qui est un ministère, non seulement un ministère qui s'est déroulé pendant sa vie, mais un ministère d'écrivain sacré, inspiré par le Saint-Esprit, eh bien, tout est fait pour l'Église. Tout est donné pour l'Église. Si Paul est consolé, jour après jour, c'est pour pouvoir lui aussi consoler les autres avec assurance, c'est-à-dire consoler ceux qui connaissent l'affliction, eux aussi, et l'affliction en conséquence de leur union avec Christ, la véritable affliction dont nous parle l'Écriture. Qu'ont à connaître les disciples de Jésus, c'est une affliction qui vient de leur union avec Christ, du fait qu'ils sont engagés dans un combat victorieux avec Jésus-Christ, et non pas une affliction qui proviendrait de leur propre péché. Il faut faire cette distinction. Ben, si, du fait de notre péché, comme Pierre l'expose bien, dans sa première épître, si du fait de notre péché, n'est-ce pas, nous faisons venir sur nous des maux de l'affliction qui vont nous affliger, si nous nous faisons tort à nous-mêmes et ce tort nous fait souffrir, alors là nous souffrons pour une cause qui est celle de notre péché. Mais ce n'est pas cela qui est en vue. Dans l'Écriture, c'est l'affliction en conséquence du rejet de Christ par le monde. Et nous sommes avec Christ, nous sommes avec lui, signe qui provoque la contradiction, et nous souffrirons de cela. Rappelons-nous ce que le Seigneur a déclaré lui-même, n'est-ce pas ? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils le feront aux disciples. Et alors nous pouvons dire que les expériences que fait Paul sont au bénéfice de l'Église, de même, en élargissant cela, nous pouvons dire que les expériences que fait un chrétien ne sont pas et ne doivent pas être pour son seul avantage, mais aussi pour le profit des autres. Pour un pasteur, un conducteur d'église, cela est absolument certain, n'est-ce pas ? Il doit avoir, comme Paul l'avait dans son cœur, cette assurance que ce qu'il reçoit du Seigneur, le bien qui lui est fait par la grâce toujours agissante de son Dieu, eh bien, cela... Il le reporte pour l'Église. Il faut que ce soit à l'avantage de l'Église, au profit de l'Église. Il va même apprendre à l'Église, comme c'est le cas ici, à aller directement à la source, à recevoir de la source. Et ici, en effet, Paul conclut dans ce passage que s'il a été consolé lui-même, il peut consoler les autres, il peut les consoler, mais il peut aussi dire aux autres, voyez-vous, je vous console, comme j'ai été consolé, et par la même puissance qui m'a consolé, je vous console, je suis en quelque sorte comme un miroir, n'est-ce pas, qui projette sur vous cette puissance de consolation qui m'est parvenue, et alors, je vous console, mais vous aussi, sachez bien que vous pouvez aller aussi, vous directement, à la source de toute consolation. Et sachons ceci pour tirer toujours des leçons de ce que nous étudions. Bah, nous étudions et nous méditons non pas pour faire de la théologie, mais nous méditons pour notre propre édification. Tout doit être fait pour l'édification de l'Église. C'est pas la théologie, souvent, se fait un jeu littéraire ou autre, un jeu d'esprit, mais quelquefois d'esprit humain seulement. Mais nous, n'est-ce pas, nous ne faisons pas un jeu de notre méditation, mais au contraire, une source d'édification. Tout doit être fait pour l'édification de l'Église. Et apprenons donc ceci, c'est que nous, qui avons des liens et des rapports les uns avec les autres, et nous avons, nous sommes souvent mis, devant, en présence de la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Et si nous voulons les consoler, nous sommes portés à cela. C'est souvent un mouvement de l'âme humaine de vouloir consoler son frère ou sa sœur. Mais il faut que ce soit aussi un mouvement de l'esprit. Eh bien, on ne peut pas consoler On ne peut pas affermir les autres si l'on n'est pas soi-même consolé. Si l'on n'a pas su soi-même goûter à la consolation, puiser aux consolations divines, et si l'on n'est pas soi-même affermi par la grâce de Dieu. Ce que je prétends donner aux autres et ce que je veux donner aux autres, je suis porté à donner aux autres, il faut que je l'aie reçu, moi. N'est-ce pas? C'est ça un grand principe. Alors, chers amis, un chrétien qui voudrait en consoler un autre et qui n'aurait pas, lui, su s'attendre aux consolations de Dieu, les demander à ce réconfort, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va consoler par les moyens, les pauvres moyens de la chair, de l'âme humaine. Et alors, il va apporter de piètres consolations, des consolations verbeuses. J'ai quelquefois vu cela, chers amis, on ne devrait peut-être pas le dire. Mais enfin, si je le dis, c'est pour que nous comprenions bien la chose. Il m'est arrivé dans l'Église de voir des personnes prétendre en consoler d'autres. Et leur consolation était misérable. Et leur consolation faisait quelquefois plus de mal que de bien, parce qu'elles étaient uniquement humaines. Elles procédaient d'une bonne intention, peut-être, une intention humaine. Mais l'Écriture nous fait toujours sortir de cela, dépasser le stade humain. Nous ne faisons pas ce que font les païens, nous faisons ce que nous devons pouvoir faire en tant qu'enfants de Dieu. Et alors, pour consoler, pour affermir, pour édifier les autres, soyons-le nous-mêmes, ayons fait nous-mêmes des expériences avec le Seigneur. Nous serons riches de ces expériences et le Saint-Esprit pourra alors se servir de nous. Je voudrais un peu, avant de terminer, vous parler des souffrances de Christ. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'envisager, n'est-ce pas, tellement les souffrances personnelles qui nous viendraient peut-être d'une bonne part du péché. Ce ne sont pas les souffrances du péché. Les souffrances du péché, ce sont des souffrances que nous nous sommes attirées sur nous-mêmes. Nous avons failli. Nous n'avons pas marché selon les principes de l'Évangile. Nous sommes sortis du mode de vie nouveau et nous sommes revenus à un ancien mode de vie. Nous sommes encore charnels, n'est-ce pas? Et alors, bien sûr, nous avons une marche, une voie de souffrance. Cela va de soi, comme bien d'autres hommes. Mais si nous marchons en véritables disciples et en véritables témoins du Seigneur Jésus, nous partagerons des souffrances qui étaient les siennes. Nous souffrirons avec Christ, non pas hors de lui, hors de ce qu'il a supporté lui-même, mais avec Christ, c'est-à-dire de la même manière qu'il a souffert lui-même. Les souffrances supportées par le Christ se continuent en effet dans l'Église. Elle s'ajoute à celle de Christ, non pas les souffrances ayant bien entendu valeur de rédemption. Celles-là, elles étaient réservées au Seigneur lui-même, à l'auteur de notre salut lui-même. Mais les souffrances qui, tout au long de son ministère, il a supportées, ces souffrances se continuent, par exemple l'opposition de tous les chefs des Juifs, les pièges qu'ils lui ont tendus, les épreuves qui se sont placées sur sa voie, eh bien ces souffrances continuent dans la vie de ceux qui poursuivent son œuvre en annonçant le salut. Ce sont des souffrances par conséquent toutes pareilles à celles de Christ, de la même espèce, aussi peu motivées et aussi mal motivé que l'étaient les souffrances infligées à Jésus. Ils m'ont haï sans cause. Sans cause, a dit le Seigneur. Ils souffrent donc pour le salut du monde, et par les ennemis de Christ dont la haine se reporte sur eux, comme nous dit Paul dans Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. L'Église elle-même, le corps de Christ, est appelée, n'est-ce pas, à partager les souffrances, je dis bien, non pas les souffrances de rédemption qui sont derrière le tout est accompli, hein, et qui n'ont pas par conséquent de prolongation, puisque tout est accompli, il n'y en a plus à accomplir, mais les souffrances d'une marche au milieu de ce monde hostile, qui réagit par son hostilité, son opposition, sa contradiction à l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas l'homme pécheur par lequel le maître de ce monde, le dieu de ce siècle, entend réagir contre l'invasion de son domaine. Car il est le prince de ce monde, c'est l'invasion de son domaine. Son domaine est envahi, il y a là un envahisseur, vu de son côté. C'est cela, un envahisseur, n'est-ce pas? Cet envahisseur, c'est le Seigneur Jésus. Il a voulu faire de lui un allié. Si tu veux, moi je te donne tous les royaumes de ce monde. Fais donc l'économie de tout ton programme de souffrance, de mort. Moi je te donne ces royaumes. Une seule condition, prosterne-toi devant moi, hein. Choisis-moi comme Dieu maintenant. Hein. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, pourquoi le prince de ce monde, Satan, père du mensonge, va se servir de la masse humaine, qu'on appelle le monde, les hommes sans Dieu, pour réagir, pour lutter contre l'Évangile, et nous avons déjà eu l'occasion de montrer que depuis que l'Évangile nous a été donné, c'est-à-dire depuis que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, qu'il a exercé ce glorieux ministère qui s'est terminé par sa crucifixion, sa résurrection et son ascension, mais bien depuis ce moment-là, le diable est en particulière alerte. Le diable est en alerte. Et immédiatement, il a fait venir dans l'Église ce qu'il n'avait pas fait du temps d'Israël. Des antichrists. Et Jean nous dit, il y a déjà au milieu de nous des antichrists. Ça, alors, cela montre quel soin particulier, le maître de ce monde entend prendre à cette résistance, à cette lutte contre l'Évangile, contre la puissance de l'Évangile, contre Jésus-Christ, mais contre son corps, maintenant l'Église. Et alors, bien entendu, il utilise le monde, la masse des hommes sans Dieu, ceux qui exécutent ses desseins, ceux qui reçoivent son inspiration mensongère, car le monde est pétri de ce mensonge. Mes amis, comme l'étude du mensonge dans le monde est quelque chose de véritablement intéressant, qui ouvre vraiment des horizons nécessaires, des horizons dans la connaissance, des horizons nécessaires. Le mensonge qui s'infiltre dans le monde, c'est inimaginable de le découvrir partout, partout dans ce monde, le monde sans Dieu. Le mensonge est là. Alors bien entendu, il y a lutte, et s'il y a lutte, il y a souffrance. Il y a victoire, victoire assurée, mais il y a souffrance cependant. L'auteur de notre salut a ouvert la carrière du combat et celle de la victoire. Et ceux qui sont ses témoins actifs le suivent dans ce combat et supportent les mêmes souffrances. Christ a souffert lui seul comme médiateur, mais son corps, maintenant l'Église, va supporter les mêmes souffrances. Et chers amis, l'étude de ces souffrances est elle aussi extrêmement édifiante. L'étude de ces souffrances nous montre, nous fait découvrir l'utilité de ces souffrances en vue du salut. l'utilité de ces souffrances en vue du salut, les véritables souffrances avec Christ en vue du salut, elles sont nécessaires. Si elles n'étaient pas là, chers amis, les hommes sur cette terre ne resteraient pas constants, ne pourraient pas rester constants. Les hommes ont besoin, je dirais, de cet aiguillon de la souffrance. Ils en ont besoin. Regardez, par exemple, maintenant, quelle ferveur dans les pays qui souffrent de la persécution. Nous avons pas mal d'éléments d'information maintenant qui nous viennent, n'est-ce pas? Il y a plusieurs organes qui nous instruisent de ce qui se passe derrière tel rideau, fer, bambou ou autre, n'est-ce pas? Et là, n'est-ce pas, dans ces pays où l'évangile est persécuté, par conséquent, les chrétiens le sont, le corps de Christ, alors, quelle ferveur, quelle foi que nous pouvons leur envier! Et chers amis, c'est un sujet de réflexion. Pourquoi nous, ici, dans la paix, nous avons encore la paix, nous avons la liberté, nous sommes réunis ici, il n'y a pas de police à nos portes, il n'y a personne qui nous écoute, n'est-ce pas? Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Mais est-ce que nous savons vraiment, non seulement en être reconnaissant à Dieu, en remercier Dieu, mais tirer avantage de cela? Pour apporter à Dieu, Seigneur, dans cet état de paix que tu nous donnes, qui est véritablement quelque chose que nous savourons, eh bien, Seigneur, nous voulons te manifester notre amour, nous, notre ferveur, tout autant que si nous étions stimulés par une vive souffrance. Que le Seigneur le permette. Amen. Amen.